Alors bonjour, voilà pour cette séance, je vous propose deux appels de riches. Deux appels de riches dans l'évangile selon Matthieu. Alors il me semblait que c'était intéressant parce que parfois, à cause de versets comme ceux que je vous ai marqués derrière, en fait dans l'évangile selon Matthieu, avec le début des Béatitudes par exemple, qu'on lisait dimanche dernier, Jésus qui dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », souvent ça a été traduit. Bonjour. Ça a été traduit. Il y a une petite feuille, peut-être. Elles sont où, les petites feuilles? Ah, voilà. Il y a une petite feuille. Donc, ça a été des fois traduit par « voilà, heureux ceux qui ont un esprit de pauvreté ». Et puis, c'est vrai que souvent, on a dit voilà, que l'évangile était pour les pauvres. Et puis, dans ce passage de l'évangile selon Luc au chapitre 18, il y a cette parole un peu étrange, voilà, ou surréaliste, où Jésus dit « Va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. » Bonjour, monsieur. Donc on a pu penser voilà, qu'il fallait forcément être pauvre pour être dans le royaume de Dieu. Il y a une autre question dans le passage donc, que je vous ai mis aussi en dessous de l'évangile selon Matthieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni la rouille, ni les vers détruisent, ni les voleurs ne fracturent, ni ne volent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc avec peut-être l'idée, voilà, qu'il faudrait être pauvre. Hein. Et que sinon, ça ne va pas du tout. Alors ça pose quand même question. Ça pose question, j'allais dire d'autant plus que parfois, on a pu faire prendre l'évangile du Christ comme une morale, finalement. Voilà ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Et donc, dans cette leçon, à ce moment-là, il y aurait l'idée de la pauvreté. Voilà. Alors, c'est des choses qu'on a pu entendre. En fait, quand on regarde l'évangile, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Et avec ces deux passages, donc, qui sont très proches, hein, de Luc 18 et de Luc 19, on a deux passages où on met en scène la rencontre de Jésus avec des riches. Et par contraste, on voit un peu quelle est l'attitude de Jésus par rapport à ces hommes, ce qu'il leur propose ou ce qu'il ne leur propose pas. Et donc peut-être que ça peut guider notre réflexion. D'abord pour voir que les riches aussi sont appelés, pas simplement les pauvres. Donc l'évangile n'est pas que pour les pauvres. Il est aussi pour les riches. Bon, c'est une bonne nouvelle pour ceux... Parce que nous, on fait quand même partie des riches, quand même. Peut-être on n'est pas tout à fait Bill Gates, ni la reine d'Angleterre, mais quand même, ça va bien, je veux dire. On a...
Dans le monde.
Quoi ?
J'ai dit, dans le monde, on est privilégié.
Je pense que dans le... par rapport au reste du monde, on est privilégié, voilà. Hein. Même ceux qui ne gagnent pas beaucoup, ici, on est beaucoup mieux que 90%, à mon avis, de la population mondiale. Donc on fait partie des riches. Mais je ne suis pas sûr que ça soit de ça dont il soit question, en fait, fondamentalement, dans l'appel de l'Évangile. Mais enfin, bon, on va lire ces textes. Hein. Donc d'abord, l'appel du premier riche, finalement. Luc 18, à partir du verset 18. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien nous lire ce texte, peut-être ? Comme ça, ça changerait un peu de voix.
Un chef lui demanda.
Ah, merci.
Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit, pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne fais pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai observé tout cela depuis le plus jeune âge, répondit-il. Jésus, l'ayant... J'ai perdu le temps.
Bon, les champagnes,
oui, ça sert mieux.
Jésus, l'ayant entendu, lui dit, « Il te manque encore une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cela, il fut très triste, car il était fort riche. Je continue.
Oui, on continue l'histoire. Hein.
Bon, d'accord. En le voyant si triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile, en effet, à un chameau de passer par un trou d'aiguille à coudre qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Alors, qui peut être sauvé ?» Il répondit, « Ce qui est impossible pour les humains est possible pour Dieu. » Pierre dit, « Nous, nous avons quitté ce qui nous appartenait pour te suivre. » Il leur dit, « Amen, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du règne de Dieu, maison, femme, frère, parents ou enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci et, dans le monde qui vient, la vie éternelle. »
Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce texte, alors ? Ça vous dit quoi ?
Que c'est plus compliqué pour un riche que pour un pauvre.
C'est plus compliqué pour un riche que pour un pauvre. Hein.
Parce que c'est vraiment radical.
Alors c'est carrément.
Donne un peu, quitte tout.
C'est impossible.
Et suis-moi.
Alors voilà, c'est même pas radical, c'est impossible.
C'est impossible.
C'est impossible.
Mais c'est possible à Dieu.
Alors d'être sauvé, c'est impossible à Dieu. Mais tout quitter.
À l'homme.
Non, c'est à l'homme. C'est impossible.
C'est impossible à l'homme de se sauver, mais c'est possible à Dieu, voilà, de sauver même le riche. Mais ce que vous dites là, voilà, de vendre tout ce qu'on a et de le distribuer aux pauvres, c'est impossible. C'est pas, d'abord, ça peut pas être un modèle de société, évidemment. Parce que, je veux dire, le boulanger, il serait obligé de ne plus avoir de four, ni de farine. L'agriculteur a plus ni charrue, ni semence. Donc, c'est impossible. Mais même l'air que nous respirons, dans un sens, il faut accepter de le griller. Et quand on le grille, les autres n'en profiteront pas. Mais c'est pour ça que je crois que c'est intéressant quand même, déjà pour le statut des paroles de Jésus, les statuts de ce que Jésus raconte, c'est pas à prendre comme un commandement appelé à la soumission.
C'est-à-dire, c'est surtout peut-être en contradiction avec... Avec d'autres paraboles sur l'argent, par exemple, justement, le mauvais riche, lui qui ne peut pas avoir secouru les pauvres à sa porte, se trouve irrémédiablement damné. Et puis peut-être à contrario, comment dirais-je, l'évangile qu'on appelle la croix des prédicateurs sur l'économe infidèle,
ah oui,
qui se tire d'une mauvaise situation en roulant un peu plus son maître. Enfin bon.
Voilà, donc souvent, voilà, ces paraboles de Jésus, puis ces paroles ici, c'est plus des questions qu'on est appelé à se poser que, je veux dire, un commandement à obéir à la lettre, parce que c'est visiblement pas possible. Même Jésus, on dit que Jésus, il avait une belle tunique, en fait, hein. Il avait une tunique avec une seule couture, on en parle à la croix, qu'elle est tellement belle que les soldats romains ne veulent pas la partager, le tissu, même pas pour s'en faire un chiffon pour essuyer leurs lunettes. Donc ça montre qu'il avait quand même une jolie tunique. Et puis, quand Pierre, il dit, voilà, nous avons quitté ce qui nous appartenait pour te suivre, bon... Pierre est souvent comme ça, hein. Il la ramène un peu, il se met en avant, c'est un peu son style, le style du bonhomme. Hein. Mais on sait bien qu'il n'a pas tout quitté du tout, parce qu'à la fin de l'évangile selon Jean, on voit qu'il a encore son entreprise de pêche, qu'il continue à avoir des filets, des barques, une entreprise, et qu'il continue à pêcher du poisson. Donc ils n'ont pas tout quitté non plus. Voilà. Donc à mon avis, c'est pas un modèle de société, c'est quelque chose qui est là pour nous faire réfléchir. Alors peut-être que la première chose qui permet de donner de la souplesse là-dedans, c'est ce que dit au début Jésus, voilà. On lui dit « bon maître ». Il dit « pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul ». Donc c'est déjà intéressant, c'est que même Jésus, d'abord, il ne se considère pas comme Dieu, déjà, ou en tout cas, il a des réserves vis-à-vis de cela. Mais deuxièmement, je veux dire, le fait d'exister en ce monde, on ne peut pas être 100% pur bon. C'est pas possible. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et donc, quelque part, ça appelle... la seule chose qui est bonne, ça ne sera pas, notre être en ce monde. C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui est bon. Donc, ça replace les choses de la perfection. Ça la replace dans l'ultime. Ça la replace comme une sorte de point oméga, comme une sorte de finalité qu'est Dieu, ou comme une source qu'est Dieu. Mais ce n'est pas, en tout cas, de ce monde. Donc, à la limite, on ne peut pas se sauver en cherchant la perfection de nos actes, de notre vie. Et donc, quelque part, dans la logique de ce que propose, de ce que demande ce chef, ce responsable dans la société ou dans la religion, je ne sais pas, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus, il voit déjà quand même une... C'est déjà quelque chose qui est paradoxal et peut-être qui interroge la démarche, parce que hériter la vie éternelle, c'est quand même faire quelque chose pour hériter la vie éternelle. Il y a un paradoxe parce que qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Normalement, l'héritage, c'est le propre de quelque chose qui est gratuit et c'est de l'argent qu'on gagne sans travailler, sans mérite. C'est le propre de l'héritage. On hérite parce que simplement, c'est pur cadeau. C'est le don qui est en dehors de tout mérite ou de autre que la naissance et l'amour des parents. Parce que s'ils laissent de quoi hériter à leurs enfants, c'est qu'ils ne sont pas allés se promener aux quatre coins du monde et manger tout leur capital qu'ils en ont laissé pour leurs enfants. Donc c'est de la grâce pure. Donc normalement, cet héritage, on n'a rien fait pour l'avoir, justement. Donc là, il y a comme un paradoxe, finalement, entre que dois-je faire pour hériter? Soit on est dans une logique de qu'est-ce que je dois faire pour gagner la vie éternelle, pour gagner quelque chose, ou bien... Qui peut hériter, donc à ce moment-là, c'est la grâce. Mais enfin bon, il faut choisir à la limite, vous voyez. Donc là, finalement, ce chef, il est entre les deux logiques. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? C'est la logique des œuvres, finalement. Et qui peut hériter? C'est la logique de la grâce. Entre les deux, qu'est-ce que je dois faire pour hériter? On voit ce brave monsieur. Il est entre deux chaises. Il hésite. Entre les deux logiques, finalement, pour être dans la vie juste et bonne.
Il ne dit pas ce qu'il va faire, finalement.
Alors, à la fin, on ne dit pas ce qu'il devient, le monsieur. Et en général, ça se trouve très souvent, ça, dans l'Évangile. Ces sortes d'histoires qui se terminent en queue de poisson, c'est pour dire, écrivez la suite avec votre propre existence, avec votre propre vie, en gros. Donc, la question, c'est qu'on nous dit, voilà, on se met à la place de cet homme. Dans cette interrogation, ce questionnement... Est-ce que la vie éternelle, c'est une question de faire, ou c'est une question de grâce et d'héritage? Et il hésite entre les deux. Alors déjà, quand Jésus dit « personne n'est bon si ce n'est Dieu seul », déjà, ça oriente un petit peu ce dilemme, ce paradoxe, finalement. Puisqu'on ne peut pas se sauver par une pratique parfaite, une pratique hors de tout reproche. Et donc, si on n'est pas hors de tout reproche, il y a toujours un déficit, c'est-à-dire qu'on est toujours en dette par rapport à l'idéal qu'on devrait faire pour mériter la vie éternelle. C'est ce que dit Paul dans sa lettre aux Romains, il dit « mais si on est dans une logique de la loi et d'obéissance à la loi pour avoir le ticket gagnant pour la vie future, il faudrait être parfait, ce qui n'est pas possible. » Donc ça disqualifie finalement cette logique-là au profit de la grâce. Donc, il n'y a que Dieu qui est bon, que Dieu seul. Alors ensuite, il dit, tu connais, pour ce qui est de la pratique, finalement, tu connais la loi. Alors, il cite que 5 des 10 paroles, en fait, du décalogue. Alors ça, c'est un peu étonnant. Pourquoi il ne cite pas les 10 hein? Il en cite que 5. Ben, c'est que finalement, c'est les 5, effectivement, où on peut s'en sortir quand même à peu près bien. Parce que tu n'adoreras que Dieu seul, bon, c'est pas facile, justement. Hein? Ben c'est au verset 20, Michel. Il manque les commandements 1 à 4, qui effectivement sont dans le rapport à Dieu. Ça, on a du mal à être parfait chez parfait. Mais Jésus n'en parle pas. Le 10e aussi.
On a compris la dernière, c'est le 4.
Et il en cite 5. Hein.
8, ah oui.
Et il manque le 10e. Hein. Tu ne convoiteras rien. Ça non plus, on a du mal, quoi, je veux dire. On fait comme on peut. Mais le dixième, il invite justement, c'est celui qui invite à peut-être à retourner au premier commandement, qui n'est pas un commandement en fait, qui est une parole, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte », donc un Dieu qui est source de libération. Donc le dixième, « Tu ne convoiteras pas », quand on le médite à l'intérieur de soi-même, on se dit « Mais en fait, je suis bien incapable de faire ça par moi-même », et ça renvoie justement à un Dieu qui est source de libération, ça renvoie au premier. Pour une lecture finalement récursive, comme on dit en maths, hein, une lecture en spirale montante, j'espère, hein, de ces 10 paroles, pour aller du 10 au 1er et espérer de Dieu une libération, un Dieu qui nous met en route et qui nous invite donc à se recentrer sur l'adoration de Dieu et de Dieu seul. Donc quand Jésus il enlève les 4 premiers et le dernier, déjà ça pose question à ce monsieur qui connaît la loi par cœur. Il se dit, oui, pour la simple partie morale, je suis parfait. Bon, c'est vrai que hein, tu ne commets pas l'adultère, bon, on peut à peu près s'en sortir, hein, en faisant un effort surhumain, mais on rigole toujours, vous savez. En français, vous savez pourquoi sur le 7, il y a une petite barre au milieu? Il y a des pays où il n'y a pas. Ben, parce que Moïse, il descend de la montagne, il dit, voilà, je vais vous donner les 10 paroles de Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte. Les Hébreux, ah mais ça c'est super, allez d'accord, on prend le 1. Le deuxième, tu n'adoreras que Dieu. Bon, allez d'accord, hein, c'est là. Puis finalement on arrive au 7. Toujours ils disent d'accord, bon allez d'accord. Et puis on arrive au 7, tu ne commettras pas l'adultère. Non, ça pas d'accord, barre le 7. Donc vous vous souvenez que le commettra pas l'adultère, c'est le commandement 7. Et c'est pour ça qu'il y a une barre sur le 7 en France.
Mais c'est la vraie raison?
Non, c'est une blague.
Pour moi, c'est pas le 6. Mais alors, à ce moment-là, je crois qu'il barre aussi, qui barre aussi le 9, qui renchérit. Enfin, c'est les catholiques qui l'avaient dit. Le 9 qui dit carrément, tu n'auras pas de désir impur. Alors,
non, le 9, c'est...
Non, il n'y a pas d'équivalent.
Le 9, c'est tu ne mentiras pas, tu ne calomnieras pas.
Non, c'est le 8, enfin, de toute façon.
Le 8, c'est tu ne voleras pas. Bon, ça, on peut...
Non, ça, je regarderai.
Non, c'est les mêmes.
Je référerai, mais enfin, de toute façon, il y a des commandements qui sont barrés parce qu'ils sont trop difficiles à accomplir, c'est ça l'essentiel.
Ah non, mais le dernier, c'est le plus difficile, c'est le dernier, surtout, c'est le tu ne convoiteras pas. Mais donc, finalement... il a raison de dire, bon, j'ai observé depuis mon jeune âge, parce que là-dessus, on peut être à peu près quand même, tu ne tueras pas. Bien que pour Jésus, il dit, voilà, celui qui déjà dénigre son frère, l'injurie est déjà quelque chose de l'ordre du meurtre. Donc, il complexifie ça. Mais enfin, bon, au sens littéral, tu ne tueras pas, bon, on essaye de ne pas trop tuer, de ne pas faire de faux témoignages, on essaye, on y arrive à peu près. Honore ton père et ta mère. Si
ça,
c'est...
Il paraît que c'est assez mal traduit, ça.
Bah oui, faudrait regarder. Oui.
Faudrait regarder, bon, précisément, on pourra étudier une fois les 10 commandements, ce serait important, ce serait une bonne idée. Mais enfin, bon, on peut dire à la limite, si simplement il s'agit de les assister matériellement, on peut le faire à peu près, si on a les moyens, enfin, on peut essayer en tout cas. Bon, bref, le monsieur, il se sent parfait à propos des commandements faciles.
Le père de toi et la mère, c'est très bien traduit.
Oui, parce que honorer, c'est peut-être la cabode, c'est peut-être la gloire, c'est donner, accorder du poids. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous voulez, la gloire de Dieu là-dedans. Donc, par exemple, la gloire de Dieu, puisque c'est le même mot, la cabode, le accorder du poids. C'est pas simplement la réputation, c'est pas simplement reconnaître la valeur de quelqu'un. C'est vraiment la présence active de Dieu pour justement comme source de libération, comme source de mise en route, comme source pour éclairer, ouvrir les yeux. Donc c'est beaucoup plus que simplement accorder du poids. Alors qu'est-ce que ça veut dire que honorer son père et sa mère? Là aussi, ça renvoie peut-être sur honorer Dieu qui est notre père et notre mère aussi. C'est pas simplement père et mère humain. C'est aussi Dieu comme père et mère. Ce commandement, il est juste à l'articulation entre la première table qui concerne Dieu et les humains qui est la deuxième. Donc, enfin bref. Donc si vous voulez, il dit, voilà, pour ce qui est de la simple loi morale, ça suffit à peu près, mais les 5 autres commandements, ils sont de l'ordre de Dieu, ils sont de l'ordre de ne pas convoiter. Et ça, c'est plus compliqué finalement. Et donc, à mon avis, ça renvoie... en creux, ça renvoie à tout ce qu'il a pu faire imparfaitement, tout ce qui est difficile à faire. Et ça renvoie donc fondamentalement vers une question de l'adoration à Dieu, finalement, où là-dessus, il ne peut pas se considérer comme l'ayant fait depuis sa jeunesse parfaitement. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, au verset 22, il te manque encore une seule chose. Hein? Alors, d'abord, l'idée du manque. Il est super riche, mais il manque quelque chose. Donc, il fait appel à une autre dimension que simplement l'avoir, bien sûr. Ce qui est peut-être dans les 5 commandements qu'il n'a pas cité. Hein? Et puis, une chose, hein, on pourrait peut-être le traduire autrement, il te manque l'unique finalement, hein, il te manque parce que Dieu c'est souvent celui qu'on appelle l'unique, hein, l'un dans la confession de foi fondamentale du judaïsme, ce qui est d'une fulgurance incroyable, hein, que l'éternel Dieu est un, est l'un, l'unique, l'unifiant finalement. Et donc, il lui manque cet un, finalement, peut-être. Et le fond de la question, à mon avis, dans cette histoire, c'est un peu ce que dit Jésus dans la fin de l'évangile selon Matthieu, que je vous ai mis sur le verso. Hein.
Dans le premier, il y a la première qui est...
Il n'y a pas chose.
Non, sans chose.
C'est un, c'est le N, c'est oui, l'unique c'est... en fait, hein, c'est l'unique. Donc ça peut être ambigu, si vous voulez, dans ce contexte fondamental où le juif matin, midi et soir, répétait le Shema Israël, qui est fondamentalement cette confession à l'éternel Dieu comme un, ça peut effectivement porter son poids, c'est le cas de le dire, surtout par rapport à ce qu'on a vu avant, où il manque justement les commandements en ce qui concerne l'adoration de Dieu seul, de Dieu unique. Je crois que la question, c'est que personne ne peut être esclave de deux maîtres. Hein. Vous ne pouvez être esclave, vous ne pouvez servir, vous ne pouvez adorer à la fois Dieu et maman. On ne peut pas...
Maman, l'argent, mais
c'est ça. Maman, c'est le dieu de l'argent, voilà. Et donc, je crois que fondamentalement, c'est ça la question. C'est de savoir, est-ce que finalement, il adore un seul dieu ou le dieu un, ou s'il adore plusieurs dieux. Et quand... Jésus lui dit, mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es chiche, comme disent les jeunes, pour envoyer l'autre copain aller faire le guignol devant la locomotive qui arrive lancée à 200 km/h? Est-ce que tu es chiche de tout quitter ton argent? Lui, il dit, je le sens mal, je le sens moyennement, quoi. Et puis, il s'en va, triste. Et donc, il est triste parce qu'effectivement, il se rend compte, finalement, que il n'est pas dans l'adoration de l'unique. Et donc le fond de la question, ce n'est pas une question d'observance, finalement. Parce que dans les 10 paroles, il n'y a pas marqué « tu seras pauvre et tu ne posséderas rien ». Ce n'est pas possible de marquer ça, finalement. C'est une question de convoitise, par exemple. La convoitise, c'est peut-être ça le fond du problème, mais la convoitise comme fond du problème, c'est une adoration, finalement. Peut-être aussi que le fond du problème, c'est est-ce qu'effectivement il est dans l'adoration du un, alors qu'il se rend compte que tourner le dos à son argent, c'est tourner le dos à son être, finalement.
Ou c'est plus simplement, si on ne suit pas le premier commandement, tout le risque d'idolâtrie qui devait être évidemment fréquent quand les Romains faisaient un pan de. Donner un panthéon enrichi alors que que les autres peuples soumis, à la différence des Juifs, disaient on assimile nos dieux aux vôtres, on continuera à vivre. Et ma foi, au moment justement de la première persécution chrétienne, on peut dire que si finalement ça n'allait pas toujours bien dans les Romains, l'intolérance c'était le défaut qu'ils avaient certainement le moins pratiqué.
Et donc, oui.
Dans ce texte, moi, je trouve qu'il y a l'idée du péché dans le sens où le péché, c'est ce qui sépare Dieu de l'homme.
Vous pouvez parler plus fort.
Oui, c'est le péché au singulier, finalement.
En lisant ça, ça me fait penser au péché, parce que le péché, c'est ce qui sépare Dieu de l'homme, et on est tous différents, et donc on a tous des attachements différents. Alors Jésus, en parlant de cet homme-là, peut-être qu'il a senti que son attachement à lui, c'était l'attachement à l'argent, mais pour nous, ça peut être...
Exactement. Par exemple, c'est l'un, ça peut être sa collection de timbres, ou ça peut être, je ne sais pas moi, la musique, ou ça peut être... Quoi ?
Ben, la c'est bibliothèque. Ça. Oui.
Non, mais ça peut être effectivement tout ce qui... voilà, ce qu'est le lieu de notre adoration et donc de notre... c'est une question de point de préoccupation ultime, finalement, on dirait, par exemple, Tillich ou je ne sais pas qui. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est... qu'est-ce qui nous donne l'impression d'être quelqu'un, d'avoir une vie valable, d'avoir une vie riche. Voilà. Et donc, lui, il le replace finalement sur un manque fondamental, finalement, et donc peut-être une mise en route, une mise en cheminement, peut-être aussi un décentrement de soi, peut-être pour savoir que c'est pas par son plein, finalement, qu'on acquiert une vie bonne, un être bon, ou une vie éternelle. Alors, cela dit, la question aussi de la suite avec le chameau, si vous voulez, c'est pas inintéressant parce que bon, je trouve que c'est tout à fait cocasse l'idée de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille à coudre. C'est une image qui est vraiment merveilleuse, je trouve. Alors, il y a des exégètes qui essayent de la rendre plus possible en disant il y avait une porte de Jérusalem qu'on appelait la porte de l'aiguille, effectivement, parce qu'elle était toute fine et que les caravanes de chameaux ne pouvaient pas passer parce qu'ils ont des gros bagages sur les côtés du chameau. Mais je ne crois pas que ce soit ça dont il parle, si vous voulez. Je pense qu'effectivement, c'est de dire par votre simple éthique, finalement, par votre simple purification, par votre simple méditation, votre simple sagesse, on ne peut pas s'en sortir, c'est-à-dire atteindre la perfection, on reste dans une dette. Et donc il faut plutôt être dans la grâce, c'est-à-dire savoir que d'être sauvé, c'est un miracle de Dieu, point, c'est tout. Et donc c'est une ouverture à cette grâce. S'il y a un seul faire, une seule orthopraxie, une seule bonne pratique, c'est celle de l'ouverture à la grâce, celle d'une... donc qui est fondamentale sur une confiance dans le Dieu comme source et comme point ultime. Je pense qu'il renvoie à ça, finalement. Et donc il dit, ben, vous ne préoccupez pas, finalement, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire de bon pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas la question. La vie éternelle, elle est accueillie comme un miracle, comme quelque chose de surréaliste, finalement, venant de Dieu seul. Et nous, alors la question, c'est plutôt, à ce moment-là, c'est d'autres questions, c'est cette ouverture à la grâce, oui, mais ensuite, ça peut être en tirer les conséquences, ça peut être des fruits qui sont proposés, mais encore dans le domaine de la grâce, pas dans le domaine d'avoir un trésor de bonnes œuvres. Finalement, ce trésor dont il parle, c'est celui de la grâce, de la confiance, de l'ouverture, de l'adoration de Dieu, de choses comme ça, à mon avis. Hein, mais donc il invite à un changement de logique, finalement, plus que dans c'est-à-dire le statut de nos œuvres, peut-être l'envie de se sauver soi-même, l'illusion de se sauver soi-même. Parce que si vous voulez, le fait, c'est pas simplement... je crois que c'est très pratique, si vous voulez. Si on est dans une logique de se dire « il faut être performant pour être digne d'exister », par exemple. En fait, c'est très sympa quand on est en forme, hein, mais face au vieillissement, par exemple, on se dit « mais je deviens nul », parce que nos capacités diminuent, on devient moins performant, donc à ce moment-là, on devrait être moins digne d'exister. Ou bien quelqu'un qui est petit, maigrichon, handicapé. On pourrait dire, mais il a moins de valeur parce qu'il est moins performant. Mais si vous voulez, ça, c'est le pire de ce qu'on peut voir le pire des terribles patrons impitoyables pour leurs employés. C'est quelque chose qui nous est insupportable, si vous voulez. On compare, Dieu serait comme ça, finalement. La vie entière serait comme ça. C'est en fait extrêmement ravageur sur la certaine notion de la dignité de la personne humaine. C'est pas simplement une question de bon point auprès de Dieu ou je sais pas quoi, c'est pas la question. C'est la question que être dans cette philosophie de vie-là, c'est quelque chose qui est ravageur, qui est nocif, comme une sorte de poison dans notre être, dans notre façon de vivre, d'espérer, de se considérer digne. Et c'est vrai qu'à mon avis, ça se paye cash face au vieillissement, face à la perte de son emploi, face au rapport avec les autres. Moi, je me souviens avoir été, avec d'ailleurs des jeunes de la paroisse ici, on avait été en Roumanie, c'était dans un autre siècle, hein, un autre millénaire même, si vous voulez, c'était du temps de Ceausescu. Et dans ce joyeux pays, la personne a une valeur parce qu'elle produit, quoi. Donc les enfants, ils produisent rien, mais enfin, c'est au bénéfice du doute, on ne sait jamais, ils peuvent devenir grands un jour et devenir des producteurs. Bon, mais les personnes âgées, les handicapés, ils n'avaient pas le droit à la médecine. Sauf si on apportait un bakchiche pour le médecin qui acceptait à ce moment-là de vous soigner. Donc en fait, pour aider les personnes âgées, les handicapés, les gens pas très en forme, il fallait leur apporter des caisses de paquets de café. Parce que pour être soigné par un médecin, il fallait bakchicher avec un paquet de café. Je ne sais pas pourquoi c'était un paquet de café, mais bon. Un paquet de café qui permettait d'être digne aux yeux du médecin, de vous soigner et éventuellement de vous donner des médicaments. Donc on est dans cette logique purement du « on vaut par ce qu'on produit, on vaut par ses bonnes œuvres ». Et donc cette logique-là de la dignité humaine, c'est quelque chose qui est très nocif. Et je crois que Jésus nous invite justement à ce changement de regard. Mais il ne dit pas une seconde que le fait d'avoir de l'argent serait nocif. Parce que là encore, ce serait du matérialisme, si vous voulez, de dire avoir de l'argent serait un handicap. Ce n'est pas la question. Ce qui est une richesse, c'est d'être de ne pas placer son adoration dans l'argent. Ça, c'est un problème. D'être dans une adoration de la source du bien, voilà, c'est quand même plus positif. Vous avez d'autres remarques avant qu'on passe au deuxième texte, qui est notre riche en scène, un peu plus loin.
Je pense que l'appréciation se fait aussi en fonction de la personne. Parce que vous, vous prenez un SDF dans la rue qui n'a aucun, qui n'a pas d'argent, ça n'en fait pas pour autant quelqu'un qui Jésus a parfaitement toutes les qualités.
C'est pas possible. Exactement. Oui.
C'est vraiment en fonction de la personne. Quand vous parlez des, oui, des malades ou des personnes âgées, chacun en fonction de sa situation peut faire quelque chose, mais à sa mesure. C'est vraiment en fonction de la personne.
Exactement, oui. Et puis à la limite, on peut être pauvre en sous et être particulièrement préoccupé justement par ce manque d'avoir. Et c'est à la limite, c'est pour ça qu'il faut absolument de la solidarité entre nous. C'est d'abord parce que la santé du corps fait partie des bénédictions qu'on espère de Dieu et qu'on peut attendre, j'allais dire, de Dieu et de la solidarité humaine. Donc on peut aider les autres pour que leur corps soit en forme, mais aussi parce que quand on n'a pas de quoi manger ou quand ses enfants n'ont pas de quoi manger, je veux dire, on est forcément hyper préoccupé par le nécessaire, par l'avoir. Et c'est légitime, parce qu'on en a besoin à court terme pour exister demain. Donc il faut soulager aussi ces détresses-là pour libérer de cette préoccupation aussi, que le pauvre puisse enfin s'intéresser, j'allais dire, plus facilement. Alors mais je crois qu'effectivement, le pauvre, quand même, dans la rue, peut nous poser question. Par exemple, moi, je connais un clochard, souvent, il aime bien les omelettes. Il aime bien les omelettes au fromage. Moi aussi, donc. Quand il a besoin d'une omelette au fromage, mais ça fait un an qu'on ne l'a pas vu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais il vient s'asseoir en face sur le toit de la rue de l'Oratoire, et puis d'en face, on le voit. Et donc, ça veut dire qu'il a envie d'une omelette au fromage. Donc, on fait une omelette au fromage, on lui descend. Mais alors, lui, on a bavardé avec lui, Christophe. Lui, c'est un choix, parce qu'il a le RSA, il le touche à la caisse d'épargne. Il pourrait sans doute trouver un petit logement, un logement social, machin. Mais non, lui, il veut être libre, tranquille, parce qu'il est très dépressif, et que donc, il veut pas de... Voilà. Donc, on peut respecter ce choix, si vous voulez, cette possibilité. Et puis, quelque part, moi, ça m'interpelle. Est-ce que... On se dit qu'on n'a pas le temps, qu'on est en souci, etc. Est-ce qu'on serait capable de prendre 100% de notre temps comme ce monsieur et d'être comme un oiseau sur la branche et puis de rester comme ça, dans le pur temps libéré, quoi. Ça pose une question. Dans un pays comme le nôtre, on pourrait choisir, effectivement, de ne plus rien posséder, comme le monsieur, là, et puis vivre 24 heures sur 24, libéré de toute préoccupation matérielle, simplement, en vivant comme ça.
C'est plus préoccupant pour ceux qui n'ont pas le choix.
Alors oui, pour ceux qui n'ont pas le choix et qui subissent la pauvreté, il faut absolument les aider. Ensuite, celui qui choisit ce mode de vie-là, à la limite, on peut respecter et l'honorer. Ne pas de force leur dire la normalité, c'est de vivre dans une maison et machin. On peut respecter ce choix si c'est vraiment son choix. Mais ça.
Et le choix des hommes mendiants qui disaient qu'ils n'avaient pas d'argent. Qui...
Ça, c'est François d'Assise.
Oui, et j'ai aussi Saint-Dominique. Enfin bon, il s'est fait connaître par autre chose.
Mais ça, c'est. Oui.
Justement, c'est là que je voulais en faire, parce qu'il y a toujours des gens qui disent que cet idéal-là, vous le prenez avec les moines, mais ils ne sont pas tellement la différence des prêtres qui est eux en droit d'avoir.
Oui, oui.
Donc, chacun a le droit de.
Mais ça, c'est très beau, je trouve, si on a le droit. Mais il ne faut pas en faire une. Voilà, c'est exactement. Ça, il faut respecter. Voilà, si quelqu'un a cette vocation à la pauvreté, par exemple, François d'Assise, il n'en a pas fait une loi pour tout le monde parce qu'il a créé un tiers ordre pour des laïcs qui sont une famille, etc., qui ont un travail, ils sont bien obligés de posséder quelque chose. Donc, il a fait un tiers ordre entre les deux. Mais effectivement, je crois que le modèle de société que propose Jésus va avant tout ce que tu as. Ce n'est pas à faire dans l'observance ou le prendre au niveau matérialiste du terme. C'est plutôt... comme vous le dites, c'était conjoncturel pour cet homme, pour qu'il puisse réfléchir et se rendre compte de l'esclavage dans lequel il était et se placer peut-être dans une façon de placer sa dignité, son identité, sa perspective de vie, de cheminement, dans quelque chose de plus favorable qui est dans une adoration plus essentielle, plus fondamentale que simplement du matérialisme, je pense. Voilà. Mais c'est vrai que ce matérialisme, c'est pas que le cas des riches, ça peut être aussi celui de celui qui est pauvre sans argent et qui est dans un souci fondamental. Alors, ensuite, l'évangile selon Luc au chapitre 19, on a donc un monsieur qui est très connu, cette histoire avec Zachée. C'est une très belle histoire, très imagée. Et donc, on connaît bien cette histoire parce que, surtout avec les enfants, c'est une histoire qu'on aime beaucoup.
Qui est devenu Matthieu, Zachée.
Zachée, je ne sais pas.
Il y en a qui disent que c'est l'évangéliste Matthieu, enfin.
Oui, parce que si vous êtes dans l'évangile selon Matthieu, on voit un péager qui est appelé pour devenir apôtre de Jésus, donc Matthieu ou Lévi, c'est vrai que là, c'est Zachée. Mais on ne nous dit pas que Zachée il devient apôtre, on ne dit pas, voilà, hein, c'est... Jésus lui dit même pas qu'il faut qu'il le suive à la sortie, finalement. Mais enfin, bon, on va lire... qu'est-ce qu'il peut nous lire, donc, ce petit récit, hein, donc début de...
Bon, je vais le faire.
Ah, vas-y, Michel, merci.
Bon, il entre dans Jéricho et passe par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs de taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore, qui est d'ailleurs lui aussi un arbre de petite taille, pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, il faut que je demeure chez toi. » Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tout se maugréait. Il était allé loger chez un pêcheur. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Mais Zachée dit debout au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de ses biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple, la peine du voleur. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qu'il est perdu.
Merci beaucoup. Donc vous voyez que là, Jésus, il ne lui dit pas « Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres ». Pourtant, il est fort riche. Donc vous voyez, comme vous disiez, c'est conjoncturel pour cet homme-là. Son problème à Zachée, ce n'est pas spécialement d'être esclave de ses sous. Alors cela dit, bon, on peut regarder effectivement l'itinéraire de ce monsieur. C'est pas inintéressant de voir comment il gère finalement son parcours. Alors quand Jésus se promène du côté de Jéricho finalement, Jéricho c'est tout à fait la limite de la terre promise. Vous savez, quand Josué rentre dans la terre promise, après tout le périple de Moïse, Jéricho pense, c'est le premier point dans lequel ils entrent dans la terre promise. Donc on pourrait dire que Jésus, il circule sur les marges, finalement. Il circule sur les marges, mais visiblement, il n'a pas spécialement de plan particulier. Est-ce qu'il cherchait Zachée? Il ne cherchait pas Zachée? Pas spécialement. On voit Jésus souvent, il est souvent plus, vous voyez, comme ça, en fonction des circonstances. Il fait ça au feeling, finalement, et je trouve que c'est assez sympa. Donc, il était chef des collecteurs de taxes, il était fort riche. Alors, c'est vrai que collecteur de taxes, si c'était si mal vu, c'est que normalement, d'abord, c'était la collaboration avec l'ennemi. Hein, il était dans l'administration fiscale romaine. Effectivement, on s'imagine ce genre de statut. En plus, normalement, il s'en profitait pour s'en mettre plein les poches et demander un peu plus que ce qui est nécessaire pour l'occupant.
Comme fermier général de l'ancien régime. Oui.
Et fermier général, il était quand même assez bien portant au point de vue de ses sous. Hein. Il se construisait son château en prenant un peu plus chez les pauvres. Hein. Donc c'était hyper mal vu, quoi, pour ces deux raisons. Alors il cherchait à voir Jésus, finalement. C'est intéressant parce que il a donc entendu parler de Jésus. La foule, finalement, a été bénéfique, puisqu'elle lui a apporté les paroles de Jésus, ou qui il était. Et puis tout d'un coup, là, maintenant, la foule devient un obstacle. Ça l'empêche de voir directement Jésus. Et ça, je trouve que c'est déjà, si vous voulez, un petit peu quelque chose d'intéressant. C'est que... C'est pas simplement connaître ce que raconte Jésus, c'est d'avoir cette relation directe par la vue, quoi. Et ça invite à une relation personnelle directe, au-delà de la transmission par les autres de sa parole. Et pour ça, il faut effectivement passer par-dessus la tête de la foule. Et ça, je trouve que ça nous invite en tant qu'Église à avoir ce ministère, peut-être, ce service d'annoncer Jésus pour donner envie aux gens d'aller vers Jésus, mais de ne pas être obstacle à la rencontre personnelle directe entre la personne et le Christ. Donc c'est très délicat, si vous voulez. Hein. Donc à la fois, il faut annoncer le Christ et l'Évangile, mais en même temps, si on est dans la morale pure, si on est dans la théologie pure, ça peut très bien faire obstacle, donc aussi bien une prédication donc de l'orthopraxie que de l'orthodoxie, finalement, hein, de la morale et de la théologie pure, en disant la vérité c'est telle pratique, la vérité c'est telle croyance, telle doctrine. Du coup, on peut bloquer l'envie qui est plus seulement d'entendre Jésus de notre oreille, parce qu'on pourrait dire, la foule, elle va nous dire mieux que nous ne le pouvons entendre nous-mêmes, ce que Jésus a raconté. Mais là, il s'agit de le voir. Donc il s'agit vraiment d'être un contact face à face, finalement. C'est ça qui est en vue. Alors cela dit, on est trop petit. Alors nous, on est trop petit, peut-être par notre savoir, peut-être par notre intelligence, peut-être par je ne sais pas quoi, mais en tout cas par la distance du temps. On est trop petit, on est trop court, on ne peut pas aller jusqu'en l'an 30 pour voir Jésus passer devant nous. Bon, ça c'est un petit problème, mais il cherche une solution. Alors ça, peut-être que la foi, c'est ça finalement, hein, c'est... chercher à voir, c'est cette soif de chercher à voir, peut-être, hein, c'est ça, c'est cette recherche finalement. Hein. Recherche, alors cela dit, voir, c'est pas simplement voir physiquement avec les yeux, c'est s'en faire finalement une conception personnelle, une rencontre, voilà, c'est ça. Hein. C'est chercher à voir, hein, voilà. Et puis courir en avant, je trouve que c'est assez beau, hein, cette sorte d'urgence, cette sorte d'énergie, cette sorte de priorité peut-être, hein, puisqu'on disait, voilà, on ne peut pas adorer deux maîtres, savoir, lui, il laisse tout en plan, et puis, comme le fait Matthieu aussi d'ailleurs, hein, il abandonne sa table de péage, et puis il suit Jésus, mais là, non, D'ailleurs, Jésus ne lui demande pas à la fin, voilà, il faut arrêter ce boulot dégueulasse, il faut quitter ce métier pourri. Non, il ne dit pas ça du tout, ce n'est pas du tout la question. Le salut est entré dans cette maison, pourtant, il continue à être péager, il continue à être super riche. On ne connaît pas sa confession de foi, savoir s'il croit bien, tout bien comme il faut, à ceci et à cela. Non, ce n'est pas la question. Voilà. Donc, alors, il court en avant, il monte sur un sycomore. Alors, comme le dit Michel, le sycomore, c'est un petit figuier, c'est un pot, c'est pas...
Il n'a pas une acrobatie à faire.
Sauf que les branches du figuier, c'est pas très costaud, je pense. On a vite fait de se casser la gueule. C'est comme de grimper dans un cerisier. Si vous voyez les branches de cerisier, elles sont souvent pas très solides. Moi, le nombre de gens qui se sont cassés la figure en cherchant les cerises... c'est dangereux, hein. Mais les figuiers, c'est pareil, c'est pas très solide, on grimpe dedans pour attraper les figues. Mais si vous voulez, ça aussi, c'est difficile peut-être, parce que dans le contexte de l'époque, le sycomore, le figuier, c'est une image de l'étude de la Bible, en fait. Les rabbins, ils se mettaient sous le figuier parce que la figue, c'est un fruit qui est particulier au sens où, si on prend un petit bout de figue, moindre petit bout de la figue est fécond. Alors que si on prend un petit bout de pomme, à moins de tomber sur le cœur où il y a des pépins, le petit bout de pomme, il va pourrir, ça ne donnera pas un pommier. Alors que n'importe quel petit bout de figue, la graine est distribuée partout. Et donc souvent, c'est une image de la Torah, hein, de la Bible hébraïque, où chaque lettre a sa fécondité, si on la plante en terre, si on la plante dans notre existence. Et donc le figuier, c'était une image de l'étude de la Bible, finalement, hein, de l'exégèse, du débat biblique. Et donc, on nous propose d'avoir cette motivation de vouloir, de chercher à voir cette énergie pour courir en avant, et puis de monter dans le figuier. Donc, ça peut être la recherche biblique, ça peut être l'étude des paroles de Jésus, ça peut être ce qu'on veut, si vous voulez, hein, autour de ça. Après, c'est à chacun d'en faire l'interprétation dans sa propre vie. Alors ça, en soi, ça n'a aucune fécondité. Mais ça prépare à la suite, et effectivement Jésus, il va le faire descendre en disant, ben voilà, faut descendre de ce figuier. Il a rempli son office à partir du moment où il y a eu cette croisement de regard, finalement. Le croisement de regard, alors il y a une petite patience entre temps, hein, il attend dans son figuier, c'est que Jésus passe, finalement Jésus... Il devait passer par là. Alors souvent, quand il y a marqué « devait », c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il s'y joue quelque chose de divin là-dedans. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que peut-être cette démarche de foi... Donc vous voyez, la foi, c'est pas tellement croire en quelque chose ou faire quelque chose, si ce n'est qu'avoir cette recherche, et puis cette recherche assez pratique, finalement, hein, peut-être de courir, de s'élever un petit peu, pas beaucoup, un petit peu, par l'étude de la Bible, par la discussion, par je ne sais pas quoi. Et puis à ce moment-là, Jésus doit passer au pied. Voilà, c'est à cette confiance que finalement ça produit. Et moi je crois que c'est assez vrai, parce que moi je connais personne qui, cherchant vraiment, creusant la question de la foi, voulant avoir la foi, se donnant un peu de temps, d'énergie dans son agenda pour chercher Dieu, n'y trouve pas, peut-être pas instantanément, mais très rapidement, du bénéfice, hein, un vrai bénéfice pour son existence. Donc oui, Jésus devait passer par là, mais ça suffit pas finalement, hein, c'est plus que ça finalement. Il faut redescendre de l'Écriture. À partir du moment où il y a eu ce contact, Jésus lui dit, Zachée. Alors d'abord, il le connaît par son nom. C'est étonnant parce que Jésus, il arrive à Jéricho.
Il est tout joyeux, moi je trouve que c'est super aussi.
Lui, il est tout joyeux pour deux. Oui, tout joyeux, c'est quand même sympa, non?
Très sympa.
Non, c'est sympa.
Il est tout joyeux parce qu'il voit Jésus.
Parce que Jésus lui dit, il faut que je demeure aujourd'hui chez toi, si vous voulez. C'est pas mal, hein.
Qu'il le cherche, c'est arrivé.
Donc il faut redescendre finalement. Alors ça, c'est quand même étonnant, c'est que Jésus, il n'est pas là-haut dans les figuiers finalement. Il ne croise pas Jésus dans l'exégèse. L'exégèse, c'est c'est qu'une façon de pouvoir porter son regard au-delà de la foule, finalement. Au-delà de ce qu'on a entendu dire, au-delà de la théologie, au-delà de la bonne morale, au-delà de ce qu'on a toujours cru qu'on devait penser et faire. C'est pour voir au-delà de la foule. Mais une fois qu'il y a eu ce contact personnel, j'allais dire quasiment mystique, je pense, mais ça peut être une mystique aussi par l'éblouissement de l'intelligence, hein. C'est pas que le sentiment religieux, c'est voilà. À ce moment-là, il faut redescendre, parce que Jésus n'est pas là-haut, finalement. Il est tout en bas, voilà, et donc il faut descendre. Alors il le connaît par son nom, Zachée. Zachée, c'est Zacchaï, ce qui veut dire... qui veut dire pur et innocent, c'est quand même... Alors est-ce que... Bon, peut-être que c'était un vrai monsieur Zachée, mais si on nous dit le nom de Zachée, alors que, par exemple, pour le jeune homme, l'homme riche du chapitre d'avant, on ne nous dit pas comment il s'appelle, c'est qu'on s'en fiche, il peut s'appeler bien Tartampion ou je ne sais pas quoi. Sauf que là, il est appelé Zachée, il est déjà pur, finalement. Et quelque part, s'il se précipite et qu'il veut voir Jésus... C'est parce qu'il se sent déjà digne d'être en relation directe avec Jésus. Donc déjà, il a eu quelque chose de cette parole de l'Évangile, qui est la parole de la grâce, qui dit que même si on est un peu nul, même si on n'a jamais senti Dieu, même si on n'est pas encore monté dans l'exégèse jusqu'au sommet du figuier, jusqu'à la dernière petite figue qui est tout en haut, déjà on est pur, au moins aux yeux de Dieu, par son pardon, par la dignité de notre être, qui est comme le chameau qui est... qui a le droit de passer par le chat de l'aiguille, c'est comme ça. Alors Zachée descend vite. Il faut qu'il descende en vitesse. Aujourd'hui, je dois demeurer dans ta maison. Alors vous savez, le verbe demeurer, c'est un peu plus que d'aller habiter. D'ailleurs, Jésus, il va pas demeurer... littéralement, matériellement, éternellement, dans la maison de Jésus, dans la maison de Zachée. Demeurer, effectivement, c'est une question, je dirais, de vie éternelle, c'est une question de... il va demeurer...
Le maintien d'un état.
Quoi ?
Le maintien d'un état, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et donc, demeurer chez lui, c'est beaucoup plus que d'aller, faut que j'aille, offre-moi un casse-croûte. C'est faut le lire au sens, de la vie éternelle, c'est-à-dire où aujourd'hui il y a quelque chose de l'éternité, de l'être bon qui va pouvoir entrer dans sa maison, dans son être, dans son existence, hein, Et ça se produit aujourd'hui, donc c'est la vie éternelle qui entre aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, pour l'être de ce monsieur. Alors bien sûr, ça attire les critiques des gens, mais Zachée, il dit, voilà... Je ne sais pas si c'est une résolution ou si c'est quelque chose qu'il faisait déjà, hein. De donner la moitié. On pourrait dire donner la moitié. Jésus trouve ça déjà très bien, mais avant il disait qu'il fallait tout donner. Donc la moitié, il garde la moitié pour lui quand même. Et en plus il est très riche, donc ça laisse quand même de quoi être en forme. Hein. La preuve, c'est qu'il peut faire recevoir Jésus et peut-être aussi tous ses copains avec, hein. Et copines.
Même si c'est des apôtres, ça fait 12 copains. Enfin.
12 copains, puis il y avait aussi pas mal de femmes qui suivaient. Hein. On en parle souvent, hein, dans la bande de ceux qui suivent Jésus, hein, d'une manière itinérante comme ça. Je sais pas, hein, si c'est. En tout cas, c'est pas obligatoire. Jésus en a pas parlé. De donner la moitié, c'est déjà super bien. De rendre au quadruple ceux qu'il a grugés. Bon, déjà, il a grugé. Donc,
Non, mais c'était la peine du voleur, c'est ça, je l'ai dit aussi. Si, c'était dans la Bible la peine du voleur, qui devait rendre au quadruple, quelquefois au quintuple, même ce qu'il avait volé. Enfin, il devait rendre qu'au double s'il en profitait encore. Enfin, ça, c'est dans la loi mosaïque.
Oui. Ben là, il donne quatre fois, c'est quand même assez généreux, quoi, c'est sympa. Mais voyez, c'est... Oui, mais ça, c'est volontairement que lui, fait ça. Il trouve, voilà, moi, j'ai choisi ça. Mais à la limite, cette démarche, elle est... C'est déjà bien, finalement, hein, moi, je trouve. Hein. C'est son choix à lui, il le sent comme ça. Mais vous voyez, c'est une loi qui est personnelle, à l'intérieur de lui-même, qui prend cette résolution. Hein, et ça, je trouve que c'est pas si mal. Hein. D'ailleurs, on nous dit qu'il est debout, si vous voulez. À quoi ça sert d'être debout? Pourquoi on nous dit debout? C'est qu'il est... C'est un homme debout, c'est un homme en forme. Hein, voilà. Il est petit, mais il est... Il est droit, il est debout, il est ressuscité, il est, voyez, c'est des petits mots comme ça qui, en passant, sont presque rien, mais debout, demeuré, c'est des choses qui nous disent le salut qui est, le salut qui est venu, qui est entré dans cette maison. Hein, c'est tout des choses qui nous disent. Ils nous disent la vie éternelle, le salut qui est donné. Voilà. Parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Bon, alors effectivement, il ne faut pas non plus le prendre parce qu'il est du sang d'Abraham ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la question. Hein. C'est fils d'Abraham par la foi.
Oui, tous les Hébreux étaient fils d'Abraham par la foi. Même.
Oui, par la foi. En tout cas, par le sang, ou par la conversion, hein, parce qu'on pouvait se convertir. Hein. Mais là, la question, c'est... Il est un fils d'Abraham, bien qu'il soit perdu, finalement, quand même. Hein, bien qu'il était... le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est quand même assez beau. Hein. Il y a cette recherche de Dieu pour sauver ce qui est perdu en chacun de nous, hein, c'est pas simplement sauver celui qui est perdu, c'est ce qui est perdu en chacun de nous, peut-être, hein, qui est décrit là. Donc il y a cette recherche de Dieu qui cherche à nous sauver, puis la recherche de l'homme qui cherche dans cette recherche de Zachée pour courir, pour s'élever, pour vouloir rencontrer Zachée qui se... Cette recherche de Jésus à pouvoir être vraiment dans la vie, donner vie à cet homme en allant chez lui, en lui, en demeurant là. Donc vous voyez, il y a ces deux recherches de Dieu et de l'homme qui se rencontrent pour faire la vie. Mais là encore, hein, ce n'est pas une question de pure matérialité. Être pauvre et le riche Zachée, Dieu voulait son salut, voulait le sauver avant même qu'il ait rien fait de particulier, et cette recherche de Dieu de sauver, elle est adressée donc même à l'homme perdu, bien entendu, hein, au contraire, il est comme un médecin. Donc là encore, il dit que c'est pas une question d'être riche de bonnes œuvres, riche de son héroïsme à être pauvre et à tout donner, comme le pense Pierre, hein, finalement. C'est pas ça. Dieu, il cherche le salut, à sauver, à visiter, à habiter chez chacun, et il redouble d'action et d'activité pour celui qui est perdu, ou pour chercher ce qui est perdu en nous. Donc c'est l'inverse d'une... celui qui a accumulé plein de bonnes œuvres, il mérite plus auprès de Dieu. Ben là, celui qui n'a pas tellement de bonnes... qui est pauvre dans sa vie, dans sa foi, c'est lui qui motive Dieu pour aller le chercher d'autant plus, il me semble. Sinon, il y a d'autres remarques par rapport à ce texte, ce riche, donc, sauvé. Voilà, voilà.
Je sais que le riche perdu de Lazare, il lui aussi revendiquait comme croyant le titre d'enfant d'Abraham.
Il disait, quand il ah ben voilà, bon exemple, oui.
Quand il disait,
je suis un enfant d'Abraham, mais ça aide pas tellement.
Il était bien croyant.
Mais ça aide pas tellement, voilà. Oui, oui.
Oui, évidemment. C'est qu'avec ces choses pour l'argent, celui-là, la différence de Zachée, c'est quelqu'un qui s'est arrêté à temps, comme l'économe infidèle ou l'enfant prodigue, tandis que le, le mauvais riche, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté à temps, ou celui qui...
Oui, mais souvent dans toutes ces paraboles, on est à la fois tous les personnages de l'histoire, si vous voulez. Donc là, on est à la fois Zachée, à la fois la foule, à la fois le pécheur qui critique, à la fois Jésus qui visite. Et dans la parabole de Zachée, du méchant riche et de Lazare, on est à la fois le méchant riche et Lazare, si vous voulez. On est toujours tous les personnages de l'histoire, en fait. Parce qu'il n'y a pas... voilà, on est... On est tous entre les deux, finalement. On est tous entre les deux. Et donc, on ne peut pas identifier l'un à l'autre. Et donc, finalement, ce que nous propose Jésus, c'est ouvrir l'œil. Hein, c'est l'œil et la lampe du corps, c'est d'avoir cette vision, cette ouverture, hein, ce regard qui va vers la lumière, finalement, vers une adoration saine de ce qui est source de la vie et pas sur ce qui est mort. Alors ensuite, bon, c'est vrai qu'avec l'argent, je dirais que même Dieu, si vous voulez, Dieu, le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu pauvre. Quand on compare le Dieu berger, par exemple, le berger, c'est celui qui a des moutons. Or, les moutons, c'est la richesse. On dit, par exemple, à la campagne, on dit combien il a de bêtes. Hein. S'il a 20 vaches, on se dit, il est quand même, ça va, hein. Il n'y en a pas que 6. Hein.
Et 100, c'est un peu beaucoup.
Ou pas que 2.
Et
100 brebis pour le bon berger de la parabole de la brebis perdue. Et la brebis, c'est déjà pas mal d'avoir 100. Bon, un troupeau de 1000 bêtes, c'est même encore mieux. Mais vous voyez, Dieu, c'est un riche berger quand même, qui a pas mal de moutons, un beau troupeau. Donc je ne crois pas que Dieu, ce soit une figure de la pauvreté. Au contraire, il est celui qui donne, celui qui fait croître, celui qui est plein de largesse et d'abondance. Donc Dieu, c'est pas un Dieu de la pauvreté. C'est un Dieu de... C'est au contraire. Hein. C'est un Dieu de la richesse, de l'abondance, de la bénédiction. Donc c'est...
Qui donne sans compter.
Il donne largement, avec abondance.
Il donne sans compter, gratuitement.
Mais heureux, celui qui peut donner plein, c'est qu'il... Bon, il a plein. C'est donc la richesse, si vous voulez, en soi... c'est une bénédiction, parce que ça permet de faire plein de belles choses avec. Le problème, c'est d'être comme Harpagon ou comme Picsou, chacun les références, ses références. Hein. Moi, je trouve que Picsou est plus rigolo qu'Harpagon, mais...
c'est pas que l'origine, moi, je ne peux pas plutôt faire demander,
Voilà. Donc, le problème, c'est un problème de vision. Bon, donc merci beaucoup pour ce bon moment. On peut continuer à parler là. La prochaine fois, donc, mercredi prochain, pour ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent, on ira voir dans la lettre aux Éphésiens, finalement, avec quelles riches, de quelles armes, avec quel pouvoir, finalement, nous pouvons avancer dans ce monde. Merci, bon retour, puis bon courage pour ceux qui travaillent. Thank you.